sermon de Dürr Sickens sur les principes de base de l'Évangile. L'Esprit m'a clairement montré que je devais encore parler de l'ABC de notre Évangile. Car dans la Bible, le Seigneur dit « Apprenez et entretenez tout ce que je vous ai enseigné. » Entretenir veut dire soigner. Maintenant, si vous continuez à construire sur le fondement, dit Paul, faites bien attention. Si quelque part votre fondement a un point faible, ou s'il lui manque une partie, ou s'il y a une fissure, comment allez-vous continuer à construire? Si malgré cela vous continuez, à un moment donné, tout dégringolera. Car, dit Paul, ce jour vient avec le feu. J'ai parfois l'impression que certains chrétiens pensent que chez eux, le feu ne viendra pas. Ils se trompent. Mais par contre, ce qui compte est de savoir et de constater si oui ou non le feu vous atteint. Ces trois hommes, Daniel et ses deux compagnons, sont là au milieu du feu. On les y avait jetés. Bien sûr, ils ne l'avaient pas demandé. Mais bon, laissons cela au diable. Ce feu, il vous lèche de partout. Il cherche quelque chose en vous à brûler. Et ce qui est en bois, ce qui en vous, dans le temps, était du bois vivant, s'est figé. Mais c'est encore un bois qui brûle bien. C'est aussi vrai pour la paille et le foin. C'est pourquoi le Saint-Esprit me dit clairement « Va vérifier et contrôler soigneusement, dans tes fondements, si tout est bien en ordre. » L'ABC, mais cela va jusqu'à la lettre Z, ne voulons-nous pas l'Évangile de A à Z, exactement comme le disait Jésus « Je suis le A et le Z », avec la différence qu'il le disait en grec. C'est bien ce que je voulais faire en me servant d'un passage très connu du dernier chapitre de l'Évangile de Marc. Marc 16, verset 14. Jésus est alors ressuscité et les disciples ne le croient pas. Et Jésus leur reproche leur incrédulité. « Vous avez le cœur dur et vous ne croyez pas. » Voici le passage. « Enfin, il se montra aux douze pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'ils avaient vu ressusciter. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Si vous regardez bien, le texte commence par un demi-crochet au 9e verset, et ce crochet se referme à la fin du texte. Ces crochets, on les retrouve souvent dans la Bible. Cela veut dire que dans l'original, ce texte se trouve à un endroit différent, et plus tard, il a été déplacé. Quand vous rencontrez dans la Bible un texte entre des crochets, cela veut dire que le traducteur l'a placé là pour rendre le texte plus clair. Mais ce que nous venons de lire a été trouvé dans un manuscrit ultérieur. Il y a même des commentateurs qui prétendent que ce texte n'en fait pas partie. Supposez que cela soit. Où Marx se serait-il donc arrêté? au chapitre 8 et elle ne dit rien à personne à cause de leur effroi. Vous trouvez cela une bonne fin pour un évangile? Je trouve mieux de finir par aller dans le monde entier et prêcher la bonne nouvelle. Et ils chantent et ils vont prêcher partout. Ce qui veut donc bien dire qu'en effet, ils n'avaient pas peur. Ce serait donc un non-sens de ne pas ajouter cette partie à cet endroit. N'est-ce donc pas notre évangile? Et ce « notre », c'est Dieu et Jésus, les anges et nous, notre évangile. Son noyau, c'est la résurrection de Jésus-Christ, parce que ses paroles, il les a prononcées après sa résurrection. Vous vous imaginez donc qu'il savait bien de quoi il parlait. Et la résurrection de Jésus, cela signifie bien plus qu'un agneau immolé. Car cet agneau, il meurt et ne revient pas. Dans l'ancienne alliance, toutes les offrandes qui étaient offertes mouraient à la place des hommes. Mais cette offrande-là ressuscite par la force du Saint-Esprit. Ce qui veut donc dire qu'il y a la vie après la mort, vrai ou non? Jésus le prouve. Il y a la vie. C'est pourquoi Ésaïe dit que l'homme sera vengé doublement pour ses méfaits. Vous avez péché? Bien, dit Dieu, je vous rends le double. En premier, je vous pardonne, et ensuite, je vous donne un nouveau départ. Voilà comment est Dieu. Le pardon. C'est grâce au sang de Jésus, notre Seigneur, que nous l'avons. Il est vraiment mort pour nous. C'est pour cette raison-là que vous ne devez plus mourir. Il dit, j'encaisse le salaire du péché, et le péché lui-même, je le porte à votre place. Que voulez-vous de plus? Et vous dites, mais en plus, je veux vivre. Eh bien, cela aussi, il vous le donne. Dieu est bon, généreux et abondant à profusion. Nous l'avons constaté à son Fils. Voilà, c'est ça notre évangile. Dans une autre lettre, Jean parle et dit qu'il y a trois témoins dans le ciel. Et le ciel, ce n'est pas là où nous irons plus tard, mais c'est le monde invisible où déjà maintenant nous vivons. Il est impossible de l'entendre via les oreilles terrestres, mais nous sommes en train de développer la vision de Dieu de façon que nous puissions voir et entendre les gens par les yeux et les oreilles spirituelles. Celui qui voit ne fait que voir de ce que montre l'Esprit à l'Église. Et celui qui entend, entend ce que l'Esprit dit à l'Église. Vous allez exercer vos sens par la pratique, dit l'écrivain de la lettre aux Hébreux. Et comme ça, vous serez adultes. Vous serez aptes aux aliments fermes. Il s'agit du développement des sens de l'être intérieur. Et cela est bien plus que le développement des sens que nous avons sur terre. Vous êtes en train de vous occuper des choses éternelles. Et si vous êtes accordé au Saint-Esprit, vous allez voir comment vont se développer vos dons. C'est de cela qu'il s'agit. Dans le ciel, il y en a trois qui témoignent. Le Père, la parole, et le Saint-Esprit. Le Père témoigne. Comment? Dieu témoigne? Mais n'est-ce pas nous qui devons témoigner? Non, c'est Dieu qui témoigne. Dans les Écritures, Jésus dit clairement, « Le Père témoigne de moi. » N'est-ce pas fantastique que le témoignage de Dieu nous appuie? Qu'il dise, « Regardez, c'est un de mes enfants. » Celui-ci est mon premier-né et les autres vont suivre. Voilà comment Dieu témoigne de vous. Et si vous faites les œuvres que Dieu vous a dit de faire, le Père témoignera avec vous. En effet, il semble bien que Dieu est avec vous. Cela paraît à travers les choses que vous faites. Car vous ne pouvez pas les faire de vous-même. Il semble donc bien qu'il y a une force surnaturelle du bon côté dans le monde invisible. Et le Fils témoigne de nous. il témoigne avec nous que nous sommes enfants de Dieu. Comment témoigne-t-il? Par les fruits que vous produisez. Vous produisez un fruit spirituel, car la preuve de l'arbre n'est-elle pas son fruit? Ceci dit, quel en est le noyau? Jésus est là, au milieu de ses disciples, et dit, « Pourquoi ne croyez-vous pas que je suis ressuscité? Vous êtes vraiment très durs. » Et il le prend mal. Il leur a si souvent dit, « Êtes-vous tellement lent à comprendre ?» Et il les regarde avec compassion et leur dit, « Allez donc prêcher cet évangile. » Vous pouvez vous imaginer quelle expédition missionnaire cela devait donner. Mais Jésus savait bien ce qu'il disait, car, aussi simple Jésus était, il faisait tout dans la foi avec le Père. Et c'est dans la faiblesse qu'il a été crucifié. Le roi des Juifs, un beau roi, en effet, et quelque part il est écrit que les Juifs se moquaient de lui, en faisant semblant de lui rendre hommage. Mais Jésus ne faisait pas attention à toutes leurs moqueries. Il ne montrait pas non plus qu'il avait raison. Il se taisait et continuait tranquillement son chemin dans la douleur et la peine, dans l'exécution du plan du Père, jusqu'à ce qu'il crie « Tout est accompli ». Imaginez qu'il se soit arrêté et qu'il soit descendu de la croix en priant son Père de lui envoyer 12 légions d'anges. Que se serait-il passé? Eh bien, il ne serait pas mort pour vous. Mais non, il ne l'a pas fait. Il devait boire une coupe. Et il voyait venir le moment avec effroi. Mais il l'a fait. Il l'a fait pour nous. Et un jour viendra où tout genou fléchira devant lui. Dans le monde invisible, les anges, mais aussi les démons diront, « Jésus est Seigneur. » Non par la menace, mais parce qu'ils reconnaissent qu'il est en effet le Seigneur de la création. C'est ça l'Évangile que nous annonçons. C'est par lui qu'a commencé la résurrection de la création. Et il a été enlevé, et il est assis maintenant à la droite de Dieu. Et il a laissé un groupe de gens derrière lui. Et maintenant, à vous, continuez à restaurer la création. Continuez à accomplir l'Écriture. C'est via ses disciples que la création va être restaurée. Et vous êtes un morceau de sa création. Jusque dans l'essence la plus profonde de votre être, vous serez restauré. Car Dieu n'aime pas le rafistolage. Ça ne tient pas. Il vous restaure complètement jusqu'au fond, jusqu'à dans votre origine. Il vous rend votre propre visage. N'est-ce pas merveilleux? Vous ne devez plus porter de masque, ni faire l'homme pieux ou religieux. Votre vrai visage, votre vraie nature, il vous la rend. Vous l'aviez, mais elle était voilée. Car, dans l'œuf, quelle sorte de nature doit se développer? Celle d'un papillon ou d'une chenille? Celle d'un papillon, car la chenille, c'est le stade intermédiaire. Mais le papillon, c'est le définitif. Voilà ce que Jésus voulait dire quand il disait « Allez chercher ce qui est perdu. » Car en effet, c'est perdu. L'homme naturel est temporel. Et soyez-en heureux, car par le baptême, nous avons échangé le temporel par l'éternel. Et ce nouvel homme, c'est l'homme que Dieu avait devant les yeux, un partenaire spirituel. La première chose que Dieu vous donne, c'est le repos. Et de quelle façon le recevez-vous? Quand vous savez d'où vient le péché, quand vous savez que vos péchés et vos maladies sont la cause des mauvais esprits, et que la culpabilité vous écrasait, il vous pardonne. Il vous donne le repos. Car un tas de peines dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps proviennent de l'angoisse. Il y a des gens qui, dès que la paix vient en eux, toute douleur disparaît. Et puis, vous devenez profondément conscient de votre innocence. C'est c'est le premier vêtement que vous portez. Un vêtement blanc et par-dessus, un vêtement multicolore. Mais faites surtout en sorte que votre vêtement blanc soit toujours votre linge de dessous. La blancheur de l'innocence. Dieu ne veut pas que vous soyez nus, mais vêtus de gloire, vêtus d'habits blancs. Soyez fiers de ces vêtements. Portez-les. Cela signifie que vous témoignez dans le ciel. C'est là que votre innocence prend de la valeur. Là, dans ce ciel, en toute innocence, racontez les choses qui vous préoccupent. C'est une force et le diable ne peut plus vous accuser. Ne connaissez-vous pas le récit d'Adam et Ève? Tous deux étaient nus et n'avaient pas honte. Et puis, dans Genèse 3, Dieu dit, « Qui vous a dit que vous êtes nus ?» Il l'était déjà, il le savait bien, non ?« J'ai eu peur, dit Adam, car j'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur et je me suis caché. » Alors qu'avant, il était tout aussi nu et il ne se cachait pas. Dieu lui demande, « Qui t'a fait savoir que tu es nu ?» Qu'est-ce que cela veut dire? En hébreu, il y a deux mots différents pour le mot « nu ». Le premier veut dire « candide », comme un enfant nu, sans la moindre arrière-pensée, innocent. Cela ne vous fait absolument rien. C'est de cette innocence-là que Dieu avait vêtu Adam et Ève. Ils n'avaient pas non plus honte l'un de l'autre. Et la deuxième signification est « dénudé ». Si on vous découvre, c'est qu'il y a quelqu'un pour le faire. Pour employer une expression ancienne, il les a dénudés de leur innocence. C'est ainsi que le diable déshonore spirituellement Adam et Ève. Et il dut révéler des choses qui n'étaient pas d'eux. Et c'est ainsi qu'ils se retrouvèrent avec le mauvais mari, le diable. Tous deux étaient spirituellement vierges. Car l'humanité est en fait conçue par Dieu, et c'est à lui que revient d'être le mari de l'homme. Mais le diable est intervenu avec violence. Il a envoûté l'humanité, car le mot hébreu pour serpent est « nashai », qui veut dire « ensorcelé ». Il les a hypnotisés. Le diable voyait la possession de Dieu et il désirait la lui prendre. Il convoitait le prochain de Dieu. Et il se mit à tuer, à commettre l'adultère et à voler. Dans le monde spirituel, il vole le bonheur et transgresse toutes les lois. Il les ébranche et en enlève l'innocence. Et voilà, il se retrouve là, nu. Et maintenant, je comprends Paul quand il dit « J'espère ne pas être trouvé nu ». Ce qui veut dire qu'il aurait alors perdu son innocence. Bon, j'espère que maintenant, la différence entre les deux est claire. Cette innocence pure vous rend intouchable, car il est très difficile de séduire des gens innocents. Pour cela, il faut alors employer la violence ou l'hypnose. Si vous êtes revêtu de Christ, vous êtes revêtu de l'innocence. Et ce vêtement va à tout le monde. Jésus disait, « Essayez donc de me convaincre de péché. » Veillez, revêtez-vous de la force de Sion. Revêtez-vous de vos habits d'apparat, Jérusalem, ville sainte. Donc, au-dessus de votre linge blanc, mettez encore votre habit de gala, le manteau multicolore, comme celui de Joseph. Secouez-en donc la poussière. Asseyez-vous donc, Jérusalem, dénouez les liens que vous avez au cou, car vous étiez l'esclave d'un autre. Libérez-vous, vous en avez reçu le pouvoir. Vous avez été racheté et payé, et cela gratuitement. Vous avez été racheté gratuitement. Ésaïe l'a prophétisé. Jésus l'a lu et a dit, « Moi je vais le faire. » Vous voyez de quelle façon on peut lire les Écritures. Le vrai disciple de Jésus fait ce que Jésus dit de faire. Commencez donc dans le ciel. Soyez-y actifs. Jésus y a apporté l'offrande et a traversé le ciel. Il a fait ce qu'il a lu. Je trouve cela beau, car c'est là la volonté de Dieu. Faire les choses, les paroles de Dieu qui doivent être accomplies. Ici sur terre, nous représentons le Seigneur. Mais sur cette terre aussi, nous sommes à l'étranger. Pourquoi? Eh bien, parce que les pensées terrestres ne nous conviennent pas du tout. Penser en termes de puissance, de considération, penser à devenir riche, si là est la façon dont il faut penser, alors je préfère me sauver. Libérez-vous des gens qui pensent de cette façon. La puissance, la considération, les honneurs, tout cela ne nous convient pas du tout. C'est une façon de penser répréhensible et blâmable, dit Paul. Pour nous, il s'agit que de plus en plus, nous soyons revêtus de notre véritable caractère. Les voiles doivent disparaître. Et ces voiles nous entourent parfois la tête tellement légèrement qu'on ne le sent pas. Mais l'autre ne sait pas voir notre visage. Enlevez-les, car ne voulez-vous vraiment pas qu'on puisse voir votre vrai visage? Et ces voiles, ce sont des filatures d'idées. Quelque part dans l'Ancien Testament, elles sont appelées des voiles ensorcelées. Cela est donc lié à la sorcellerie. Et quand êtes-vous ensorcelé? Quand vous ne croyez pas ce que Dieu dit de vous. Vous êtes alors ensorcelé par ce qui est faux. Il vous regarde et vous dit, vous ne valez rien. Vous faites le gentil, mais vous ne valez rien. Vous êtes une figure minable. Si les gens vous voyaient. Ces filatures de mensonges doivent disparaître. Ces tromperies sur Dieu et sur l'homme. C'est cela, la foi du diable. Il ne vaut rien. En fait, il n'est qu'un énorme mensonge. Il influence vos pensées jusqu'à ce que vous le croyez. Et alors vous dites, je n'arriverai à rien. Non. Sous la pression, tenez ferme le bon témoignage. Même sous la pression la plus forte, Jésus a tenu ferme le bon témoignage. Il se trouve là devant Pilate qui lui demande, tu es roi? Et Jésus tient ferme son témoignage. Tu le dis, lui répond-il, avec le sang qui lui coule de la tête et les vêtements déchirés. C'est cela votre salut. C'est par ça que Jésus est ressuscité. Je suis venu, dit-il, pour témoigner de la vérité. Oh, dit Pilate, qu'est-ce que la vérité? Regardez un peu à quoi il ressemble. Voici l'homme. Devant ce mépris total, dans le ciel, Jésus se dresse. Il pense, la parole divine tient ferme, même dans ce moment difficile. Si vous faites ce que Jésus veut dire, alors vous devenez un seigneur, exactement comme lui, car il est le seigneur des seigneurs. Et ainsi, en premier, vous devenez un disciple qui suit, et ensuite, quelqu'un qui est envoyé, un apôtre. Vous êtes alors un esprit vivifiant. Dieu dit, rendez-les donc vivants. Mais enfin, n'est-ce pas lui qui rend vivant? Oui, dit-il, vous le faites en mon nom. En effet, je recommande toujours tout à toi, dites-vous. Eh bien, dit-il, maintenant, c'est moi qui le recommande à toi. Je dois donc commencer à penser autrement. Dieu vous donne une tâche, une mission formidable, car ne recevez-vous pas de lui des trésors et des possibilités, comme ça, pour rien, gratuitement, qui vous rendent capable? C'est inimaginable. Êtes-vous alors capable de remettre sur pied un individu tout à fait brisé spirituellement? Oui. Aucune thérapie n'en est capable. Allez donc chercher le fils perdu. Ne restez pas continuellement dans votre petit cercle agréable à vous regarder les uns les autres, mais regardez par la fenêtre de l'église. Et voyez donc tous les mendiants
et les déformés qui courent partout. Invitez-les à votre table. Faites-les entrer. Faites-leur partager votre table. Mettez un couvert pour eux, car ce que vous ferez est bien. Allez chercher l'homme que j'ai perdu, dit Dieu. Je l'ai perdu, et ils ne savent même pas qu'ils peuvent renaître à nouveau. Comment le sauraient-ils si personne n'est là pour le leur dire? Et comme ça, Dieu nous a remis l'affaire en main. Pour l'amour du ciel, allez-y, faites-le. Regardez donc ce qui est écrit dans le verset 19. Dans la version anglaise, il y a « therefore », ce qui veut dire « c'est pourquoi ». Je l'ai cherché dans le grec, et il y a « c'est pourquoi ». Donc, la forme logique. Le Seigneur fut enlevé au ciel, il leur parla, et donc, il fut enlevé au ciel. Et si j'emploie le mot « donc », cela veut dire que ça concerne ce qui s'est passé précédemment. Je suis malade, donc je ne suis pas à l'école. Vous voyez le rapport? Il dit, « Et maintenant à vous. » Donc, il fut enlevé au ciel. Il est préférable que je m'en aille de façon à ce que le Saint-Esprit vienne sur vous. Et ce Saint-Esprit, qui a fait de moi un Seigneur, fera de vous tous des Seigneurs. Laissez-vous donc éduquer. Laissez-vous couronner. Vous avez votre couronne grâce au Seigneur. Employez les pleins pouvoirs que vous avez. Soyez actifs avec les choses qui sont devenues éternelles en vous. Parfois, je pense tout de même comment se fait-il qu'il y a tellement d'actions missionnaires qui échouent. Cela provient du fait que, spirituellement, ils sont encore enfants. Mais nous ne serons envoyés que quand nous serons adultes. D'abord, vous êtes envoyés dans le ciel. C'est là qu'est le but. Regardez donc au-dessus des murs de la bergerie. Que voyez-vous? Des moutons égarés, des bêtes squelettiques. Que voulez-vous donc être? Un mouton bien au chaud du Seigneur Jésus dans la bergerie? Ou dites-vous, j'ai aussi envie de devenir berger, car être berger, c'est une très belle fonction. Et quand vous êtes berger, que faites-vous? Vous sortez de la bergerie et vous vous mettez à chercher les brebis égarées pour les rassembler. Rassemblez-les, les brebis de cette étable, celles d'une autre étable. Rassemblez-les donc. Vous voyez, c'est alors que vous êtes un bon berger. Vous êtes actif dans les lieux célestes. Et là, vous annoncez l'Évangile. Vous êtes un messager de Dieu, un messager de joie. Et que criez-vous? Le salut vient du Seigneur. Et celui qui a des oreilles vient vers vous. Mais il vient vers le Seigneur. Le salut vient du Seigneur. C'est ce que Jonas disait un jour, et il avait raison. C'est vraiment merveilleux de pouvoir aller dans ce monde malade avec un médicament pour toutes les maladies, la parole vivante de Dieu. Annoncez l'Évangile. Allez partout dans le cosmos et prêchez donc à la création entière. Et toute la création qu'est le monde visible et invisible, car qu'a fait Jésus la nuit quand seul pendant des heures il priait? Il aura certainement beaucoup lu et discuté avec son Père, mais aussi beaucoup lutté pour libérer le chemin qui permet d'annoncer l'Évangile. Car n'est-ce pas dans le ciel que vous voulez atteindre les gens? Je veux dire, c'est l'esprit humain que vous voulez atteindre. Et dans cet esprit pend toute une filature de voile. Et pour commencer, toutes ces filatures doivent être enlevées et nettoyées de façon à pouvoir atteindre les gens. Cela demande beaucoup de peine, mais c'est un beau travail. Annoncez-le aussi aux démons. Vous verrez leur réaction. Criez-leur que Dieu est bon. Et que font-ils? Ils se mettent à trembler. Mais ne vous laissez jamais intimider par aucune situation. Mais annoncez l'Évangile, et ils se mettent à trembler. Ils doivent plier genoux. Racontez-le aussi aux anges, car ils désirent y jeter un coup d'œil. Dites-leur, racontez-leur. Dans l'Ancien Testament, ce sont les anges qui devaient annoncer les idées de Dieu aux hommes. Mais dans le Nouveau Testament, nous assistons à une situation unique. C'est nous qui devons les transmettre aux anges. Dans Marc 16, 15, Jésus dit « Allez à travers tout le cosmos et racontez l'Évangile à la création entière. » La création entière, cela veut dire le monde visible et invisible. Dans tout ce que nous faisons, nous sommes surtout orientés sur le monde visible. Car, voyez, dit Jean, je vis un nouveau ciel, et ensuite la terre. Et quel rapport y a-t-il entre le ciel et la terre? L'un est la réalité, l'autre en est l'image. Ce qui se joue dans votre esprit est une chose. Et ce qui en devient visible est la terre. C'est pourquoi nous cherchons un chemin dans le ciel. C'est ce que Jésus nous a recommandé. Il nous a transmis l'affaire. Et maintenant, quelle sorte de gens cherchez-vous? Il a déjà envoyé les anges. Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Vous entendez? Aux hommes de bonne volonté. Qu'est-ce que c'est que la bonne volonté? C'est orienter sa volonté sur ce qui est bon. Exactement comme les bonnes œuvres. Ce sont des œuvres qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Seulement ces choses-là sont bonnes. Le reste est inemployable. Les gens qui ont une bonne volonté ont une bonne intention. Pour cela, il y a un mot en grec, anthropos, qui veut dire « homme » et ensuite « eudokia », ce qui donne le mot « agréé » ou « satisfaction ». Dieu est satisfait des gens qui ont une bonne volonté. Il en jouit, car il a un sentiment de bien-être. Quelque part, dans Jean 8, Jésus dit « Je fais tout ce qui lui est agréable ». Être agréable, c'est travailler pour l'honneur de quelqu'un qui vous regarde avec satisfaction, parce que vous faites de bonnes œuvres. Vous êtes le bon et fidèle serviteur qui continue tranquillement dans les lieux célestes. Car le Père, qui est dans les lieux célestes, voit l'être intérieur. Quelque part, Jésus dit, « Il a plu au Père de vous donner le royaume. » Et alors, qui sont ces « vous » ? Ce sont ces gens qui veulent faire la volonté de Dieu. Ils ont cherché Dieu, ils l'ont trouvé et ont dit « Que puis-je faire pour toi ? Me voici pour faire ta volonté. » Pendant la prière d'adoration, laissons le Seigneur nous poser la question. Veux-tu être mis en service ? Dieu cherche des volontaires, exactement comme dans le cantique de Déborah, dans Juges 5, là où on parle de volontaires. Priez le Seigneur de la maison d'envoyer des moissonneurs volontaires. Et lorsque Jésus dit cela à ses disciples, il les envoie. Vous voyez, Jésus nous a remis l'affaire en main. Et puis Jésus dit, « Que celui qui croit se fasse baptiser, et il sera sauvé. » Quand est-ce que quelqu'un croit? Quand il a d'abord entendu parler de l'Évangile. Et sa première réaction est de se faire baptiser. Donc, de quoi avez-vous parlé? Nous ne sommes pas là pour baptiser. Si on nous connaît comme baptistes, alors il y a quelque chose qui cloche. Baptiste veut dire qui baptise seulement. Jean était connu pour cela, d'où son surnom, le Baptiste. Mais son surnom n'était qu'une partie de sa mission. Si quelqu'un se fait baptiser, vous avez donc annoncé la mort de Jésus. C'est par là que commence l'Évangile, la mort de Jésus et la résurrection. Et l'immersion, dit Jésus, cela se passe dans l'eau. Pourquoi dans l'eau? Vous le savez, pour être soustraits à la décrépitude, à la caducité. Pierre dit, tout est composé d'eau. Et comme image contraire, le baptême, dès lors, vous en sauve. Donc, prenez une avance. Tout est sous l'eau. Mais, spirituellement, vous en êtes sortis. Et nous nous faisons baptiser dans le baptême de Jésus, parce qu'il est le seul à être ressuscité. D'un autre baptême que celui-là, ne le faites jamais. Certains se font baptiser pour les morts. Cela ne concerne pas le baptême dans l'eau, mais le baptême de feu. Et c'est un tout autre baptême. Nous avons trois baptêmes. Le baptême dans l'eau, le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu. Ce qui est écrit là dans Corinthiens concerne le baptême de feu. Parfois, vous supportez le feu à cause d'un autre. C'est une chose que vous connaissez bien. Et si vous ne le savez pas, regardez donc le Seigneur Jésus. Je dois être baptisé d'un baptême, dit-il. Et combien je suis pressé qu'il soit déjà passé. Et je dois boire une coupe jusqu'à la lie. Faut-il vraiment que je la boive? Vous vous rendez bien compte que cela devait réellement l'oppresser. Je peux me l'imaginer, si on peut arriver à se l'imaginer. Et ainsi, Jésus a traversé le baptême de la mort, à cause de tous les morts qu'il y avait. Tous les hommes sont spirituellement morts. Et Jésus dit, « Eh bien, je vais ressusciter pour vous. » C'est alors qu'il s'est fait baptiser pour tous les morts. Et de la même façon, Paul aussi a eu énormément de misère et de douleur. Pourquoi ? Je supporte toutes ces misères pour que le Christ prenne stature en vous, dit-il. Voilà les douleurs que Paul avait. C'est pour cette raison qu'il portait les stigmates du Christ dans son corps. Ces stigmates n'étaient pas des trous dans ses mains, mais on le frappait, on le martyrisait, on le brutalisait. Lisez donc le chapitre où il s'agit de Satan qui lui donne des coups. Mais il tient bon. Il dit, « Je le fais pour les autres. » C'est pourquoi dans la lettre aux Romains, il est écrit, « Personne ne vit pour lui-même, et personne ne meurt pour lui-même. » Quelle vision! Quel amour il y a derrière! « Vous naissez d'eau et d'esprit, » dit Jésus. Et l'esprit est vie. Alors qu'au début de la première création, il est écrit, « Tu es poussière, tu es matière, vous n'appartenez qu'au visible. » Combien n'y a-t-il pas de gens qui croient que les choses se passent seulement dans le visible? Et quand ils aspirent à un meilleur monde, c'est uniquement à une nouvelle terre qu'ils aspirent. « Mort, c'est mort, » disent-ils. Mais c'est évidemment tout à fait faux, vous le savez. Où est retourné l'esprit d'Adam, et celui d'Ève, et celui de Caïn, d'Abel? Où est celui d'Abraham? Le visible retourne à la poussière, car nous sommes construits d'éléments de la terre, d'eau et de carbone. Mais dans le monde invisible, nous voyons que les esprits de décomposition se rendent maîtres du merveilleux corps humain. Ils soumettent le corps à la décomposition, à la détérioration. C'est pourquoi Jésus avait mis des anges à son tombeau. Car, pourquoi devait-il y avoir des anges là? Ces anges disent aux disciples, « Vous cherchez le vivant parmi les morts? » Mais ils y étaient eux-mêmes. Ils étaient donc bien chez le vivant. Ils gardaient le corps de Jésus, parce que Jésus avait dit, « Ce corps, je vais le réendosser. » Et ce corps n'était pas un nouveau corps, mais un corps renouvelé. Ce qui est ancien devient nouveau. Tout comme ce qui se passe dans l'esprit, se passe aussi dans la chair. Celui qui croit se fait baptiser. Un bébé ne peut croire ces choses. Et malgré tout, ses parents disent, on le baptisera quand même.
Vous voyez la conséquence? Il y a quelque chose qui ne colle pas. Mais je ne condamne pas ces parents-là. Ils ne savent pas mieux. Mais un enfant qui naît à nouveau se fait baptiser. Dieu confirme l'alliance de l'enfant d'Abraham, d'enfant régénéré à enfant régénéré. Quoi, dites-vous? Suis-je un descendant d'Abraham dans la chair? Mais non, il faut voir cela spirituellement. Qui sont les enfants spirituels d'Abraham? La semence d'Abraham, ce sont ceux qui croient. C'est pourquoi, dans la prédication et dans la Bible, il y a partout croire premièrement et ensuite se faire baptiser. Parce qu'après, il est écrit, si vous ne croyez pas, il ne faut donc pas non plus vous faire baptiser. Cela ne concerne pas les bébés ni les enfants, mais les adultes uniquement. Peut-être, dites-vous, j'ai 18 ans et je veux me faire baptiser. Alors, réfléchissez bien, car je ne trouve pas cela une bonne raison. Et si vous dites, je me fais baptiser parce que cela est écrit dans la Bible, alors il ne faut pas le faire non plus, car vous vous trompez. Vous le faites pour une autre raison que celle qui est la seule bonne, notamment que Jésus est mort pour vous et que vous réalisez très bien qu'il est ressuscité par amour pour vous et que vous acceptez cela. Que vous acceptez que vos péchés sont réellement complètement pardonnés. C'est la chose que vous tenez devant le diable comme témoignage. La pièce qui témoigne pour moi et la preuve qui témoignait contre moi est effacée. Quelle fête, non? Et quand vous regardez autour de vous dans les lieux célestes, alors vous pensez qu'il y en a plusieurs qui se sont fait baptiser. Mais après leur baptême, on ne les voit plus et on ne les entend plus dans le ciel. C'est exactement comme s'ils vivaient d'une allocation. Ils ne font plus rien. C'est dommage. Alors, je ne peux m'empêcher de me poser la question. Pourquoi vous êtes-vous fait baptiser? Pensiez-vous que c'était un point final? Avez-vous cru que cela voulait dire « sauver » Le diable trouve parfait que vous alliez sur une voie de garage après votre baptême, pourvu que vous n'alliez pas plus loin et que vous restiez un bébé. Il trouve cela parfait. Mais non, nous voulons grandir. Il est écrit « être sauvé », cela veut dire « redevenir bien portant » sur toutes ses facettes. Beaucoup de gens pensent « pourvu que je puisse échapper au malheur, cela me suffit ». Mais « être sauvé », cela veut aussi dire « se protéger soi-même » ou « recevoir le salut » ou encore « rester intact » et « être sans aucune meurtrissure ». Sans aucune flétrissure. Je retiendrai cette dernière expression. Il y a clairement là un développement. De l'état de patient, nous devenons docteurs. N'est-ce pas merveilleux? Laissez-vous donc d'abord soigner comme un patient, jusqu'à ce que vous soyez bien portant. Étudiez jusqu'à ce que vous soyez docteur. Et alors, vous pourrez aider les autres. Un des mots grecs employés pour guérir est « thérapénon ». Le mot « thérapie », vous connaissez? Être le serviteur de quelqu'un. Vous êtes donc le serviteur d'un autre pour le protéger. Ce mot est encore assez employé dans le Nouveau Testament. Ainsi, cherchez un peu Éphésiens 2, premier verset. Vous êtes mort par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, dit-il. Et alors, il est écrit quelque chose de remarquable. Nous vivions selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair. Ce qui veut dire, orientée purement sur le matériel, sur le naturel, et de nos pensées. Vous voyez, accomplissant la volonté de nos pensées, et nous venons juste de lire que ces pensées sont sous l'influence du prince de la puissance de l'air. Vous voyez à quel point il est important que vos pensées soient réformées. Si vos pensées se transforment, le reste viendra de soi-même. Cela signifie que vous prenez les idées de Dieu en vous, ses idées sur lui-même et sur le reste de la création. Cela vous donne une vision merveilleuse. Développez-la donc. Vous verrez les gens autrement. Vous serez ému de compassion quand vous verrez un homme bizarre ou une femme difficile. Sur le coup, vous penserez autrement. Par la connaissance du monde invisible, je vais mieux aimer, je vais mieux voir. Je n'impute plus le mal à personne. Voilà ses idées. Dans Éphésiens 4, 23, Paul dit « Être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. » C'est le Saint-Esprit qui renouvelle mes pensées et vous revêt de l'homme nouveau. Vous le revêtez comme un veston. C'est cela l'homme divin que Dieu agrée. Et cela est aussi écrit. « Qui est créé selon la volonté de Dieu en justice et sainteté véritable. » Il s'agit ici de vous. C'est vous, le nouvel homme. Pas créé selon la volonté d'un homme, mais selon celle de Dieu. Plus selon la chair, mais selon l'esprit. C'est pourquoi je suis tellement heureux quand quelqu'un naît de nouveau. Donc, aimez votre prochain comme vous-même. Vous êtes aimé du Père. C'est cela, manifester l'amour de Dieu. Vous avez une très belle chose à faire, notamment annoncer l'Évangile. Sinon, vous êtes continuellement tourné sur vous-même. Vous racontez la résurrection de Jésus-Christ hors de la caducité, et tous ressuscitent de la caducité, car la création entière est soumise à la caducité, et elle en souffre. Demandez un peu aux gens normaux s'ils trouvent la mort une si belle invention. Mais bien sûr, il y a quelque chose qui cloche, c'est affreux. Tous les gens meurent bien trop vite, mais alors tous. Et Jésus dit, « Toutes choses m'ont été remises. » Quelles sont toutes ces choses? Je suis une de ces choses, un de ces objets du temple. Et si nous ne le faisons pas, qui le fera? Si nous ne chassons pas les démons, qui le fera? Si nous n'annonçons pas le plein conseil de Dieu, dont Dieu désire tant que nous le manifestions, qui le fera? Jamais une détonation comme ça à l'improviste ne viendra du ciel, avec Jésus assis sur un nuage descendant vers nous. Non, n'y pensez pas. Le nuage, c'est l'Église. Et Jésus se révèle dans le nuage. Le soleil luit sur ce nuage et toutes ses couleurs rayonnent à l'extérieur, dans les lieux célestes. Parlez-en. Ne vous taisez pas. Je trouve que c'est un problème chez beaucoup de gens. Ils se demandent s'ils en sont capables. Il suffit de vous dire, « Mais oui, j'en suis capable. » Par le Saint-Esprit, vous l'êtes certainement. C'est justement vous qu'il cherche pour le révéler. Le problème n'est pas de savoir si vous le pouvez, mais si vous le voulez. C'est là qu'est le clou. Parlez de lui. Et si vous faites une faute, vous recommencez, car nous sommes dans un processus d'apprentissage où on apprend beaucoup. Allons-y, et notre Père et Mère nous accompagnent. C'est si simple. Notre Père dans le ciel et notre Mère l'Église. Dieu nous envoie à partir du ciel. Jésus est entré dans le ciel et n'en est plus jamais ressorti. C'est ce que vous apprenez. C'est votre tâche, le terrain où vous habitez. Et Dieu nous y envoie et dit, faites toutes choses nouvelles. Exercez-vous jusqu'à ce que vous soyez un homme de métier. Et ensuite, mettez-le en pratique. Dans Romains 14, 7, il est écrit, en effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur. Avez-vous l'ardent désir en vous de ne pas vivre pour vous-même, mais pour aimer votre prochain? C'est cela le désir de Dieu. Nous sommes rendus vivants pour rendre nous-mêmes les autres vivants. Vous pouvez faire entrer un animal dans l'arche et dire « Je l'ai sauvé ». Mais c'est bien plus beau de rendre quelqu'un vivant de façon qu'en tant qu'homme, il puisse être un de ceux qui est nommé à guider une partie de la création. Faisons l'homme. Entendez-vous Dieu vous dire « Allons-nous faire des hommes à notre image ?» Vous voyez, à notre image, à notre ressemblance. Faites-les paraître. Pour cela, vous avez tous les dons qu'il vous faut. Et pourquoi vous le faites? Eh bien, parce que c'est ce que vous souhaitez de tout cœur à chacun. Cherchez ces dons spirituels, et Dieu va vous appuyer. Pour réparer une pendule, vous avez besoin de toutes sortes d'instruments. Un coup de marteau suffit pour tuer un mauvais esprit, mais vous avez besoin d'un tas de petits tournevis pour restaurer quelque chose chez l'autre. D'abord, être restauré soi-même, et ensuite, restaurer l'autre. C'est une vocation que de faire paraître l'homme de Dieu. Mais, dit-il dans Marc, celui qui ne croit pas sera condamné. Il est écrit catacriso. Cata veut dire vers le bas et criso séparé. Vous êtes séparé et vous tombez vers le bas. C'est ce que fait la parole de Dieu. La parole, notre parole, fait la séparation dans le monde invisible entre la vie et la mort. Elle conserve ce qui est bon et enlève ce qui est mal. C'est merveilleux quand vous laissez agir cette épée à deux tranchants. C'est pourquoi nous ne mettons jamais personne à la porte de l'Église. Même si cette personne de mauvaise intention veut rester pour ensuite nous trahir, nous ne la mettrons jamais à la porte. La parole fera bien son œuvre. Finalement, cette personne mange et boit son propre jugement. Laissez donc agir l'épée à deux tranchants, car c'est tout de même merveilleux qu'ensuite, que vous soyez séparés du mal, et qu'ensuite vous ayez le droit, le pouvoir, que de votre bouche aussi sorte une épée à deux tranchants, et fasse sortir le bien dans l'esprit de l'homme, dans son âme et aussi dans son corps. Cette puissance, vous l'aurez bientôt. Cette épée sort de la bouche de Jésus et de la nôtre. Celui qui n'apporte pas cet évangile reste sous la condamnation, dit Paul. Et les choses pour vous ne sont pas ce qu'elles devraient être. Délivrer veut dire libérer, libérer des liens des ténèbres. Le combat. Bien sûr, nous connaissons tous l'image des armes. Vous avez des armes plein les mains. Frappez donc, tirez les hommes de leur retraite. Celui qui abandonne le combat a perdu. Jésus a combattu énormément, vous savez, mais il a fait paraître l'homme. Luttez le bon combat de la foi et ayez bonne conscience. Cette bonne conscience vous couvre, depuis votre baptême déjà, qui était la prière d'une bonne conscience. Donc, ne pas croire est aussi un acte, vrai ou non. Si j'entends ce qui est bon et je le rejette, j'agis, car je préfère les ténèbres à la lumière. J'apporte la parole et je laisse la parole opérer la réparation. Commençons en premier par être actifs dans la prédication du plein conseil divin dans les lieux célestes. Si vous prêchez cet évangile, les signes suivront. Verset 17. Mais la plupart veulent le retourner. Ils prient en premier pour les signes. Seigneur, prouve-nous ton existence. En fait, c'est un défi à Dieu. Mais si vous faites cela pour la galerie, alors ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Il s'agit de votre activité dans le ciel. Faites paraître l'homme véritable, car vous avez reçu le pouvoir de le faire au nom de Jésus. Vous joignez-vous à nous? Amen. Prions. Père, apprends-nous à voir comme toi tu vois. Apprends-nous à parler comme toi et à agir aussi comme toi. Par ton esprit, apprends-nous ce que tu as appris à Jésus. Apprends-nous à aimer comme tu nous aimes. Merci que tu nous exauces. Amen.